J'ai relancé un enregistrement là. Bien, alors maintenant continuons. Une question d'Anna. Comment quelqu'un qui commence à être un peu ascensionné peut-il quitter le système de la 3D où il baigne quand même malgré lui? Je me demandais même si à l'inverse il était possible de quitter le système à la suite de son plein gré, c'est-à-dire en fait que les choses se goupillent d'elles-mêmes pour nous sortir de la 3D sans que cela vienne de notre propre volonté, avant même que l'on sache qu'il existe autre chose au-delà de la 3D. Bien, ben là c'est pareil, la réponse est donnée dans la question, c'est-à-dire que dans la réalité, vous n'avez pas volontairement à quitter la 3D. C'est-à-dire que plus votre fréquence va augmenter, et plus les choses se feront naturellement, puisque, comme dirait l'autre, ben, vous allez sortir de la 3D malgré vous, puisque vous ne serez plus en résonance avec la vibration 3D. Donc plus vous allez augmenter votre fréquence, plus vous allez aller vers la 4D, et plus le rejet de la 3D va se faire. Mais quand je dis rejet, c'est pas un rejet, non, j'en veux plus. Non, ça sera une répulsion. Vous savez, c'est comme un aimant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait nord-sud, et puis d'un seul coup, il y a un aimant qui tourne, et puis à fur et à mesure qu'il tourne, ben, l'autre, il commence à se repousser, quoi. Parce que, ben, on va avoir un négatif face à un négatif, ou un positif face à un positif, et ils vont se repousser naturellement. Mais pas instantanément. Ça, parce que bon, il y a une partie qui est en train de retourner. Donc vous, bah, quand vous étiez en 3D, bah, vous êtes l'aimant qui est en train de se retourner vers la 4D. Donc le résultat, bah, par rapport au système autour, eh bien, vous allez être en répulsion par rapport à ce système, mais une répulsion naturelle. Donc il n'y a pas à chercher volontairement. Ce n'est pas à vous de faire tourner, je dirais, l'aimant. C'est à vous simplement d'être ce que vous êtes et d'augmenter votre fréquence. Donc je rappelle qu'augmenter sa fréquence, c'est déjà supprimer tout ce qui vous la baisse. Et donc si vous faites ça, ça sera déjà largement suffisant. Hein? Donc à l'insu de son plein gré, vous quitterez le système de 3D. Petite voix. Alors Dominique, peux-tu nous expliquer quelle est la différence entre notre ressenti et notre petite voix? Alors quand on dit notre petite voix, eh bien c'est un terme général. Hein, en trois mots quand même. C'est un terme général parce que en fait c'est un ensemble de choses et ça c'est selon chacun. Donc pour moi ma petite voix ça peut être un ressenti. Donc il n'y a pas pour moi une différence entre un ressenti et une petite voix. Par contre je fais une différence entre l'intuition et un ressenti. Le ressenti c'est ça passe par le corps. Une intuition ça passe par la tête. La petite voix, c'est un espèce de mélange entre les deux, enfin personnellement. Donc, des fois, dans ma tête, ça me cause un peu. Mais ça me cause, c'est pas une voix sonore. J'entends pas quelqu'un qui me parle. Hein, j'entends pas Dieu qui me parle. J'entends pas. Non, c'est comme une pensée qui me parle, on va dire. Et quand j'ai une pensée, ça me traverse, mais. Et enfin, c'est pas évident de décrire exactement ce qui se passe, mais parce que c'est variable selon la gravité, on va dire, et selon la nature de ce qu'il y a à me dire. Donc, quand je bricole, par exemple, je dois aller quelque part, et ben, je dois, par exemple, prendre un sac pour y aller. Eh bien, au moment où je vais partir, et puis il y a la visualisation, par exemple, d'un sac. Ou sac me traverse, ou la pensée du sac me traverse. Et là, je dis, ah oui, le sac. Donc, je prête attention à tout ce qui peut surgir, on va dire, dans mon lac intérieur, quand je fais quelque chose. C'est quelque chose qui surgit, c'est comme une bulle, vous savez, qui arrive à la surface, qui fait des ronds dans l'eau. Eh bien, dès qu'il y a une bulle, alors je ne sais pas ce qui a provoqué la bulle. Si on a lancé un caillou, si c'est une grenouille qui a plongé, je ne sais pas. Hein, ou du gaz qui a remonté du fond, je m'en fous, je vois simplement les ronds. Hein, les ronds dans l'eau, et je me dis, ah oui, ça y est, voilà, il y a ça. Et donc, c'est ça, d'une certaine manière, ma petite voix à moi. Ça, c'est pour gérer les choses qui ne sont pas gravissimes. C'est-à-dire que si j'oublie, c'est-à-dire que si je ne fais pas attention, je vais aller faire mes courses, et puis arrive un moment, je dis, ah, merde, j'ai oublié le sac. Mais je savais que, je me rappelle, que effectivement ce sac, ça m'avait traversé l'esprit d'une certaine manière. Mais il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, il n'y a plus d'eau dans la voiture, parce que j'ai toujours des bouteilles d'eau dans la voiture, et j'ai tout bu. Donc il reste que des cadavres de bouteilles, on va dire, mais plus d'eau. Et je peux très bien monter dans la voiture et ah, j'ai soif. Et un truc. On ne va pas montrer une bouteille d'eau, prendre de l'eau, j'ai soif. Là, je regarde les bouteilles. Ah, ben oui, ok, d'accord. Donc, il y a des façons, on va dire, différentes. Donc là, j'ai donné des petits exemples simples. Mais quand ce sont, par exemple, je suis en train de rouler en voiture et que ben, il y a un vélo qui déboule ou n'importe quoi ou un truc, et que ça peut être gravissime, c'est pas juste un petit truc, une petite bulle de rien du tout qui vient à la surface. Ça peut être beaucoup plus violent. Et je dirais même que des fois, ça va carrément. Je vais appuyer sur la pédale, je sais pas pourquoi j'avais la pédale de frein et je sais pas pourquoi j'appuie sur la pédale de frein. Mais en tout cas, j'ai appuyé sur la pédale de frein et je sais pas pourquoi. Mais c'est seulement quand j'ai appuyé que je vois le vélo qui passe devant dire ah! Mais je n'avais pris aucune décision. Donc c'est pour ça que quand on dit parler avec sa petite voix, on n'est pas en train de parler avec un individu qui articule, qui a un vocabulaire. C'est un ensemble de choses. Qui parlent différemment selon, comme je disais, la nature et la gravité. Quand j'écris des articles ou je fais des choses, c'est à peu près la même chose. Je commence à taper, et puis les choses elles viennent toutes seules, et puis voilà, puis d'un seul coup j'ai une image qui me traverse, et puis clac, 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 et puis voilà, puis je suis la musique. Je cherche pas à réfléchir 3D comme je disais, ça je sais pas faire de toute façon. Hein, c'est pour ça que des fois quand je dis je suis comme une bille, je suis une bille. Je roule. Je roule. Hein, je roule ma bille, mais. Puis ça roule bien, quoi, c'est fluide, quoi. Hein, mais en fait, je réfléchis pas, quoi. Je cherche pas. Et si quelqu'un essaye de m'entuber d'une manière ou d'une autre, je vais le savoir instantanément parce que je vais le ressentir. Donc j'ai pas besoin de réfléchir, de dire ouais, là, tiens, il a cligné de l'œil, ou il a regardé le plafond, ou il a fait ceci. Donc vous savez, moi je suis pas un adepte de la PNL, je suis pas un adepte de toutes les techniques X, Y, Z, mais tout ce que je sais, c'est que s'il y a un truc, je vais le sentir tout de suite. Donc je fais confiance. Donc on me prête des fois une certaine forme d'intelligence, mais c'est pas une intelligence, on va dire, mentale. Disons que c'est pas celle-là qui prédomine, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Donc, beaucoup plus intuitif dans le fonctionnement. Hein, intuitif, ça ne veut pas dire forcément instinctif. Un intuitif, ça peut être, je dirais, très travaillé, on va dire. C'est souple, c'est subtil. L'instinctif, c'est généralement pas très subtil. C'est du brut de fonderie, mais il y a de la puissance, on va dire. Donc, c'est un ensemble. Hein, donc, quand ma petite voix me parle, ça me parle de bien bien des manières. Hein? Donc il ne faut pas prendre le mot petite voix à la lettre. Hein? C'est-à-dire de penser que c'est quelqu'un, c'est quelque chose qui te parle avec des mots. Non, il te parle de toutes les manières qu'il va pouvoir afin que tu comprennes et saisisses la chose. Alors, il y a une question de Nini. Pour trouver sa mission, que faut-il faire? Réussir à suivre sa petite voix, j'imagine. Donc là, pareil. Donc, trouver sa mission. Vous n'avez pas une mission à trouver. Vous n'avez pas à trouver. Parce qu'en fait, en étant ce que vous êtes, vous allez être dans votre mission. Donc, moi, j'ai jamais cherché à savoir quelle était ma mission. Elle s'est simplement découverte à fur et à mesure que j'avançais, quoi. Et puis après, quand on a commencé à faire un bout de chemin, on se dit, tiens, ça va dans telle direction, donc ça doit être à peu près dans cet ordre des choses. Mais d'une certaine manière, je n'ai jamais cherché à savoir quelle était ma mission. Parce que ça, c'est une projection du mental ego qui veut manipuler, qui veut prendre les choses en main et qui se dit, mais attends, si c'est ça ta mission, alors maintenant tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et ceci, et ceci, et cela. Non. Tu es ce que tu es, et si tu as une mission, eh bien, elle se remplira d'elle-même toute seule, simplement en suivant tes impulsions, en suivant tes intuitions, tes ressentis et ta petite voix. Donc, il n'y a pas à savoir sa mission. D'ailleurs, ce n'est pas difficile. Dites à quelqu'un, ma mission, c'est ceci. Généralement, l'autre personne en face de vous fait un pas en arrière, parce que d'abord, il trouve ça prétentieux, mais d'une deuxième chose, il se dit, ouais, bon, bah, c'est un illuminé de première qui se fait, enfin, disons qu'il prend des vessies pour des lanternes. Donc, connaître votre mission ne peut que renforcer votre mental ego. Donc, il y a juste à suivre son chemin et puis les choses se feront naturellement. Moi, si on m'avait dit que j'allais écrire des articles et faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'aurais jamais cru à IOTA. Jamais. Mais quand je regarde derrière, je me dis, ça c'est fait. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi j'ai fait autant de boulot, j'ai fait autant de trucs dans ma vie. Parce que, en fait, il y en avait besoin pour faire le job que je fais maintenant. Mais quand j'ai fait mes études de dessinateur, j'avais aucune idée que j'allais m'en servir pour faire des petits dessins comme je vous fais, quoi. Hein, enfin bref. Alors, passons maintenant au soi supérieur. Alors, une question de cours. Si on enlève le mental et l'émotionnel, est-on en contact directement avec le soi supérieur? Je devrais retraduire ça. C'est-à-dire que si effectivement, c'est pas, on ne peut pas enlever le mental, mais disons que si ton mental est calme et que ton émotionnel est calme, il est évident que la force de contact que tu auras avec ton soi supérieur est maximale, puisque tu pourras l'entendre. Hein? Le mental, je rappelle, si je prends les éléments, c'est le vent. Et l'émotionnel, eh bien, c'est l'eau. Donc quand il y a du vent et de l'eau, bah, ça fait des vagues. Donc comment voulez-vous causer quand vous êtes en pleine tempête? Comment voulez-vous être en contact avec votre soi supérieur alors que vous avez de la houle, pas possible? Non, donc si effectivement la mer est plate et qu'il n'y a aucun vent, vous aurez à ce moment-là plus de chances de voir la réflexion, c'est-à-dire réfléchir dans le sens 4D du terme, c'est-à-dire de voir ce qui se passe à la surface du lac ou de la mer ou de l'étang. Et là, vous serez vraiment en contact avec votre soi supérieur. Alors, une question d'Anne-Marie. Nous sommes en permanence téléguidés par notre mental. Or, le but du jeu, en étant dans notre cité et notre étroité, est que notre véhicule soit téléguidé par notre soi supérieur. D'où la peur de notre mental égo d'être lobotomisé. Comme lorsque nous avons, en conduisant par exemple, ce sentiment d'avoir une sorte de vide, d'avoir perdu le contrôle, mais au final, c'est justement ce que l'on recherche. Bon, alors. Je ne sais pas où est vraiment la question dans le tas. On est téléguidé par notre mental quand effectivement on suit, je dirais, les choses qui nous ont été enseignées par tout ce qui nous entoure, hein, par l'éducation nationale, les institutions, enfin tout le bordel. Donc eux, ça passe que par le mental, on est clair. Par contre, quand vous vivez votre cité étreuté, c'est que vous suivez par votre cœur. Et donc là, il n'y a pas de prise de contrôle ou quoi que ce soit. Vous avez juste votre mental ego qui regarde la chose et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne sers plus à rien, moi. Donc, c'est vrai qu'il peut faire un peu de barouf, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être ce que vous êtes. Le reste n'a aucune importance. Donc, téléguider, oui. On pourrait dire guider tout simplement. Alors, donc concernant les souvenirs, une question d'Anna. En fait, depuis un petit moment, je me demande ce que sont vraiment les souvenirs, surtout si l'on prend en compte le concept d'éternel présent. Lorsqu'on se souvient de quelque chose, est-ce que qu'on crée une sorte de fenêtre spatio-temporelle reliant deux époques de notre vie? Ou alors s'agit-il plus d'une sorte de bilocation ou de voyage astral, surtout si on se dit quand on réfléchit qu'il n'y a personne aux commandes, mais que l'on est en pilotage automatique. Que dire alors des souvenirs qui ne correspondent plus à la réalité des faits, souvenirs dégradés, voire faux souvenirs induits? Alors, s'il faut regarder le problème sous un autre angle, sous un angle tout simplement vibratoire, c'est-à-dire que nous nous renouvelons en permanence, je sais pas combien de fois par seconde, mais un paquet de fois par seconde, et ça nous donne l'idée d'une persistance. Et en fait, quand nous avons un souvenir, ben c'est comme si on avait un écho. C'est-à-dire que vous allez avoir un bruit, une onde qui vous revient à vous-même. Et on sait tous que quand il y a un écho, il y a une déperdition de puissance du signal, mais aussi il y a souvent un mélange qui se fait avec d'autres ondes. En clair, eh bien, si vous ne cherchez pas à vous rappeler un souvenir, ce souvenir va s'éteindre, voire bah, donc disparaître, voire se transformer, puisque son signal sera de plus en plus faible. Donc, plus vous remettez sur la table un souvenir, plus il gardera, on va dire, une certaine force. Mais si vous êtes en 4D, eh bien, vous verrez que ce même souvenir de 3D que vous avez va prendre des dimensions différentes, parce que vous le regarderez sous un angle différent. Et c'est pour ça que quand les gens disaient, ah ouais, avant c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps, non, ils étaient dans la merde, comme maintenant. Sauf que maintenant, leur cerveau, leur manière de voir, ne se souvient plus des emmerdes, mais n'ont gardé que le bon. Donc il y a le bon vieux temps. Mais si je vous replongeais 50 ans en arrière, je crois pas que vous diriez que c'était un temps qui était génial. Donc nos souvenirs sont déformés parce que, en fait, ce sont des signaux qui perdent de leur puissance avec le temps et qui vont se mélanger avec d'autres signaux. Et donc c'est pour ça que souvent on regarde la qualité vibratoire d'un individu à sa capacité, entre guillemets, à se rappeler et surtout à modifier ses souvenirs. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que si vous regardez bien, vous pouvez modifier tous vos souvenirs et faire que votre vie devienne un conte de fées. Alors que ça a été une galère totale. Donc c'est cela. Si par contre vous voyez votre vie comme une galère totale et que vous l'interprétez toujours comme une galère totale, vous pouvez bien sûr imaginer que par la loi de l'attraction et de la résonance, eh bien elle va continuer à être un enfer total. Si par contre vous la regardez plus positivement en disant oui, ça de bon, puis ça de bon, puis ça de bon, eh bien vous allez vous alléger. Et parce que vous allez vous alléger, vous serez encore plus en joie et plus tranquille et plus serein, dire ouais, ma vie ça a été super. Même si vous avez eu des emmerdes 3 fois plus que les autres. Donc on voit bien que tout est relatif et que c'est notre fréquence de base qui va déterminer de comment on interprète nos souvenirs et on verra combien nos souvenirs sont aussi illusoires que toutes les projections qu'on peut faire. Donc, d'un point de vue sonore, pensez que c'est simplement un écho et que bien sûr, en fonction de la vallée dans laquelle vous êtes, bah, les échos ne vont pas revenir de la même manière que si vous êtes dans une église ou n'importe où ailleurs. Alors, voir le divin en l'autre, donc une question de Sally. Au fur et à mesure, en avançant sur le chemin, je me rends compte de la beauté de l'autre ainsi que ses imperfections. Que je reconnais en moi aussi, elles sont souvent touchantes. Cet intérêt pour l'autre me trouble un peu car je ne sais pas comment gérer l'émotion qui affleure. C'est une forme d'attirance, sans la pulsion sexuelle. L'autre, homme ou femme, son visage, son parfum est comme une œuvre d'art. Comment tu fais pour exprimer ce que tu ressens sans réprimer tes élans dans le monde 3D, sans te laisser embarquer dans des quiproquos? Moi, c'est ce qui me bloque en ce moment. Cet élan amoureux, au lieu de m'ouvrir, a plutôt tendance à me faire freiner des quatre fers. Alors là, c'est qu'il y a confusion entre l'observateur et l'implication émotionnelle de l'observateur. C'est-à-dire que on peut regarder vraiment les choses avec, je dirais, beaucoup d'intérêt, comme si effectivement ce sont des œuvres d'art, sans pour cela y attacher un lien affectif. Donc, quand on regarde quelque chose de beau, eh bien, si c'est une personne, cette personne le sait. Et si elle ne le sait pas mentalement, son cœur le sait. Donc, moi, j'appelle ça le numéro de téléphone angélique. C'est-à-dire que si vous voulez contacter quelqu'un, regardez quelque chose de beau en elle, n'importe quoi. Son regard, sa démarche, la forme de son mollet ou de son nez, sa façon de parler, de rire, on s'en fout, n'importe quoi. Eh bien, vous allez voir qu'instantanément, cette personne va vous regarder et être en contact avec vous. Parce que tout simplement, c'est là encore le phénomène de l'attraction et de la résonance. Donc quand on trouve quelque chose de beau dans quelqu'un, eh bien il le sait instantanément. Donc il n'y a pas besoin de lui dire. Il y a juste à l'être, à le ressentir, et vous lâchez simplement un sourire. Et puis bah, la personne verra ce qu'elle fait. Si elle est guindée, bloquée, elle continuera ce chemin en se disant « Mais pourquoi l'autre il m'a souri comme l'idiot du village ?» C'est pas. Si par contre elle est un petit peu plus ouverte, eh bien elle entrera en communication avec vous. Donc là, il n'y a pas de quiproquo. Donc on peut rentrer en relation avec n'importe qui, que ce soit du bébé jusqu'à la grand-mère, que ce soit du curé en passant par la bonne sœur et tout ce que vous voulez, n'importe qui. Et donc ça, c'est la capacité, quand vous êtes en 4D, à être en contact avec n'importe quelle forme de vie. Alors bien sûr, au début, on commence par l'humain. Et c'est vrai que ça pose plus de problèmes que quand on regarde un chat ou un chien, c'est évident. Mais la richesse en est tout autre, parce qu'elle peut vous répondre. Alors bien sûr, un chien vous répond. Mais pas du tout de la manière, et il ne voit pas du tout le monde de la même manière que vous. Par contre, quand c'est un humain, vous ne savez pas quelle va être sa réaction. Et c'est là que je dirais, c'est tout le plaisir d'être ouvert et transparent aux gens. Donc, vous voyez le beau, vous ressentez le beau, et la personne eh ben, va s'illuminer d'elle-même, tout simplement. Et après, bon, ben, la suite, elle se fera comme elle se fera, quoi. Là, il faut laisser le champ ouvert totalement, totalement. Et je peux vous dire que si, comme tu l'as mis, sans la pulsion sexuelle, eh bien, s'il y avait une pulsion sexuelle, la personne le sait. S'il n'y en a pas, elle le sait aussi. Donc, il n'y a absolument pas à se sentir coupable de quoi que ce soit quand on voit quelque chose de beau chez les gens. Bien au contraire. Quand les yeux des gens brilleront parce qu'ils verront la richesse de chacun et la beauté de chacun, on sera certainement en 5D, tranquillement. Hein, ce que je veux dire, c'est là le but, entre guillemets. Parce que dès que vous trouvez quelqu'un de beau ou quelque chose de beau en quelqu'un, vous ne pouvez plus lui faire du mal. Vous ne pouvez plus devenir agressif par rapport à elle. Donc on sera dans un monde de paix. Donc il n'y a pas à freiner des cas de fer. Il y a juste à être ce que l'on est et c'est tout. Compréhensive. Restez dans le silence. Ne cherchez pas à communiquer avec le verbe. Regardez, ressentez et laissez venir. Voilà. Alors, symptômes d'ascension. Alors, il y a jujube. Ai-je vraiment le désir d'ascensionner puisque je me sens bien, n'ai aucune douleur physique, aucun problème financier. La vie est belle, etc. Pourtant, il y a des changements, même minimes en moi, comme le désir de faire place nette dans ma maison, de ne plus acheter des choses inutiles que la pub rend pourtant indispensables. Et surtout, j'essaie de me détacher vraiment de mes enfants et petits-enfants. Je sais qu'ils ne m'appartiennent pas, qu'ils feront ce qu'ils ont décidé de faire de leur vie, que je n'ai aucun conseil à leur donner. Bref, mon désir d'ascensionner est-il réel ? Est-ce simplement mon ego qui me le dit ? Mon indifférence croissante de ce qui se passe autour de moi est-elle due à l'hypothétique sagesse de la vieillesse ou le résultat de ce que je retiens de tout ce que tu nous dis ? Je suis dans le brouillard, mais un brouillard ensoleillé. Bien, ben là c'est pas difficile, donc les symptômes ne sont pas dus, on va dire, forcément à l'âge. Il peut y en avoir un petit bout, à la rigueur, mais au processus de l'ascension lui-même. Qui a dit que le processus de l'ascension était le rejet et un acte volontaire en tout ? Non, il se fera naturellement. Et c'est pour ça que des milliards d'individus sur Terre vont ascensionner sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils n'auront fait que les choses simples, comme le désir de faire place nette dans ma maison. Tout ce qui est inutile, je le vire. Ne plus acheter des choses inutiles. Pourquoi faire tourner un système qui ne sert à rien, qui prélève pour détruire en ben. Que les enfants et les petits-enfants, ben, ils sont ce qu'ils sont, je les respecte, donc je ne vois pas en quoi j'irai mettre ma graine et que je leur imposerai ma vision de la vie. Donc ici, comme elle dit aussi, mon indifférence croissante de ce qui se passe autour de moi. Ben voilà, c'est le processus de l'ascension fait simplement avec fluidité. Voilà pourquoi on n'est pas obligé de parler d'ascension aux gens, puisque c'est un processus qui se fait via les énergies qui nous sont déversées actuellement et qui appartiennent à l'évolution, on va dire, de l'espèce d'une certaine manière. Donc, que vous le vouliez ou non, de toute façon, le processus d'ascension est enclenché. Après, savoir dire « est-ce que je suis en train d'ascensionner ?», ça c'est une question du mental ego qui, bien sûr, veut mesurer, quantifier, savoir où il en est, parce que lui veut voir enfin, toujours en termes de compétition, où il en est, s'il est, combien il y a de gens devant et combien il y a de gens derrière. Parce que, bah, quelque part, il a des peurs, il a des doutes, il a des machins. On s'en fout de tout ça. L'essentiel, c'est d'avancer. Mais quand on dit d'avancer, c'est d'être soi. Et les choses se feront naturellement. Hein? Alors, Fleur de Soleil demande, les enfants petits peuvent-ils aussi avoir des symptômes d'ascension? Ben, d'une certaine manière, ils sont déjà dans leur être-té. Donc, ils sont déjà dedans, eux. Donc, ils n'ont pas à se poser la question s'ils vont ascensionner ou pas, puisque le fait simplement d'être un enfant, c'est ce qu'on nous demande d'être. Donc, ils le sont. Donc, la musique suit son cours, et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas besoin de leur parler de processus d'ascension, parce que, par définition, ils sont déjà dedans. Alors, symptômes d'évolution, une question de Anna. Depuis que j'y prête attention, j'ai régulièrement droit à des clins d'œil, à savoir notamment les fameux chiffres qui se répètent sur les horloges ou ailleurs, mais aussi des références à des noms, lieux, événements de mon passé présent qui apparaissent dans la vie de tous les jours, dans les contextes qui s'y prêtent le moins. Je me sers parfois de ces coïncidences pour prendre telle ou telle décision dans la vie. J'aurais aimé savoir quelle est la prochaine étape. Vais-je commencer à recevoir d'autres types de messages? Est-il possible que certaines entités se matérialisent un jour devant moi ou que je commence à faire du channeling? Sinon, tout cela prouve-t-il au moins que je suis sur la bonne voie? Donc là, on voit, ce sont plein plein de questions mental ego. Là, on est vraiment en plein dedans, hein, c'est évident. Donc, les coïncidences, on a vu que ces coïncidences, synchronicité, c'est que simplement ça démontre que votre soi supérieur est en train de vous montrer que ben, vous êtes sur le chemin. Et puis ben, les choses, elles iront à fur et à mesure que vous avancez. Disons que dans les débuts, on va noter un certain nombre de synchronicités. Et puis, arrivé à un stade, vous ne les noterez plus parce que ça sera que ça. Donc, vous serez dans la fluidité. Et donc, quand vous êtes dans la fluidité, vous ne parlez plus de synchronicité puisque, en fait, vous partez du principe même que tout est fluide. Donc, vous oubliez quasiment ce qu'est la synchronicité. Je prends un exemple relativement très simple qui s'appelle une place de parking. Donc, quand on va au supermarché, on est toujours content d'avoir une place de parking juste à côté des trucs où il y a les chariots et, si possible, le plus proche possible de l'entrée. Ben, moi, c'est tellement simple et évident qu'à chaque fois que je vais au supermarché, je trouve une place à côté des chariots, juste à côté de l'entrée. Je ne me pose pas la question ou j'envoie pas un désir, un souhait en disant s'il vous plaît. Non. C'est du basique, ça fait partie du taf et ça se fait. Donc c'est un exemple. Donc quand vous êtes dans la fluidité, c'est en fait la fluidité, c'est la somme de toutes les synchronicités. Donc c'est comme quelqu'un qui disait, bon voilà, tiens, j'ouvre le robinet, il y a une synchronicité, il y a l'eau qui coule. Bon, ben non, l'eau elle coule, c'est parce que tu as ouvert le robinet. Donc comme le robinet maintenant est toujours ouvert, tu vas plus t'occuper de la synchronicité en elle-même. Tu feras même plus attention puisque ça sera ton quotidien. Voilà. Donc, est-ce que je suis sur la bonne voie? Forcément. Plus les choses deviennent simples et fluides, et plus vous êtes sur la voie. Hein? Alors, révélation sur Gisèle, écran de cristal. Une question d'Anna. À l'approche du futur passage à la 4D puis 5D, penses-tu que nous aurons droit à l'ouverture et à la divulgation mondiale du contenu des halles d'Amanti, la salle qui se situe prétendument sous le sphinx de Gizeh et qui devrait contenir tout le savoir des Atlantes, histoire qu'avant le grand passage, on apprenne quand même officiellement la vérité sur nos origines. Alors, là-dessus, je vais être relativement clair, on s'en fout. C'est-à-dire que l'information qui devra vous venir viendra à vous. Hein, avant, c'était à nous d'aller chercher, comme beaucoup font encore aujourd'hui, c'est eux qui vont chercher l'information. Donc c'est le mental ego qui dit, il faut que je gratte, il faut que je gratte, il faut que j'aille voir, il faut que je trouve. Et ça prend un temps fou, et on ingurgite des tonnes de données. C'est un peu à l'image du chercheur d'or, il va se bouffer 3 tonnes de terre pour retirer 1 gramme d'or. Donc c'est une méthode de travail, une méthode de travail, on va dire, fastidieuse, hein, faite par le mental ego, hein, par une volonté, hein, donc par une peur quelque part. Quand vous roulez en 4D, vous avez pu vous en foutez complètement. Pourquoi? Parce que en fait, vous n'allez pas trouver un gramme d'or disséminé dans 3 tonnes de terre, vous allez trouver carrément la pépite. Et donc, je dirais à la première pioche, votre petite voix dit, tiens, là, regarde, là, tu mets ta pelle ici, tac, et il y a la pépite, c'est tout. Donc, c'est un changement de travail totalement différent. Donc, c'est en cela que si l'histoire, on va dire, de l'humanité doit venir à la conscience de l'humanité, elle viendra. Donc, attendez que la pépite vienne plutôt que de s'amuser à brasser 3 tonnes de terre pour ramasser des cacahuètes. Le savoir des Atlantes, c'est la même chose. Plus vous élevez votre fréquence et plus les choses viendront naturellement à vous. Alors, pourquoi chercher à aller. Enfin, chercher les choses? Commencez donc par élever votre fréquence et puis après le reste, ça viendra tout seul. Hein? Alors de même, penses-tu que les 13 crânes de cristal seront réunis s'ils n'ont pas déjà été faits et quels en seront les résultats pour nous? On s'en fout. C'est-à-dire que les gens qui doivent, alors théoriquement ça a déjà été fait, les gens qui doivent faire la cérémonie avec leurs 13 crânes de cristal et tout ça, ben, c'est des gens qui sont, ça fait partie de leur contrat de vie, ça fait partie de leur job. Donc ils vont faire leur job. Et puis bah, vous aurez l'information quand l'information viendra. Point barre. On n'a pas à courir en disant oui, mais c'est où, c'est qui, comment, c'est quand, on s'en fout. Ça viendra quand ça viendra. Donc là, on revient toujours dans la notion de fluidité, de synchronicité. L'information dont vous avez besoin maintenant, ici, elle viendra à vous. Ce n'est plus à vous d'aller la chercher. Et c'est pour ça que plus les énergies deviennent fortes, et plus il vous est impossible de lire. Alors, cherchez plus à acheter 50 bouquins en disant faut que je les lise tous parce que sinon je vais louper quelque chose. Ben, vous verrez que vous en lirez deux, enfin vous en commencerez trois, mais vous irez pas loin. L'information viendra à vous. Ayez confiance. Parce qu'en étant décontracté, comme je dis, avoir les fesses desserrées, c'est beaucoup plus facile pour faire amour d'une certaine manière et donc d'attirer l'information à vous. Soyez attractif, soyez dans cette loi d'attraction et de résonance. Donc plus vous serez cool, plus vous serez détendu, et plus il vous sera apporté sur un plateau exactement ce dont vous avez besoin. Par contre, tant que vous aurez les fesses serrées, les dents crispées, et que vous essayerez de gratter pour gagner parce que vous avez ceci et cela, et plus vous passerez à côté des choses. Voilà la réponse que je peux donner par rapport à Gizet, par rapport à tout ça. Hein? Alors, mesure de la fréquence vibratoire de Sabine. Que penses-tu des mesures prises et mesurées en unité Bovis avec un pendule? D'autres utilisent un appareil qui mesure la fréquence en Hertz et d'autres en parlent comme d'un tabou qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Alors, on s'en fout. Parce que c'est encore des mesures, donc c'est encore du mental ego. Bon, la dernière fois, enfin la dernière fois, il y a déjà un certain temps, il y a au moins un an, chez une demoiselle qui jouait du pendule avec ses unités Bovis. Donc elle a essayé tous les trucs avec moi là, et tout a bloqué à fond. C'est-à-dire que les échelles n'étaient pas assez grandes. Donc ça veut dire que une mesure, ça veut rien dire, c'est par rapport à quoi? Donc, quand même, disait, dire oui, mais alors pour ça, on doit avoir tant d'unités Bovis. Ah ben moi j'étais hors champ tout de suite, et alors ben on fait quoi là? Donc chaque unité correspond à, je dirais, à des références relatives. Donc quand on parle de la fréquence en Hertz, c'est par rapport à des secondes. Or, quand vous parlez en secondes, vous parlez avec un temps extérieur. Mais par rapport au temps intérieur, une seconde, ça veut dire quoi? Rien du tout. Alors comment vous allez dire telle fréquence, ça fait tant de Hertz quand vous êtes en voyage intérieur? Ça veut rien dire. Donc ne tombons pas dans les choses de mesure qui sont totalement relatives, parce que c'est illusoire en fait. Donc on s'en fout. Vous savez, le on s'en fout, on peut le mettre à beaucoup de trucs, mais. Pourquoi se prendre la tête avec des tas de machins qui servent à rien, hein? Alors, vibration des lieux et transformation. Est-il possible que lorsqu'on visite certains lieux très chargés énergétiquement, style Stonehenge, Gizeh, Machu Picchu, etc., et que l'on s'en imprègne, on puisse noter divers changements en nous, fréquences vibratoires amplifiées, apparitions d'ondes, etc. Bah oui, forcément. Hein? Donc, moi, j'ai été visiter Stonehenge sans le savoir. Enfin, bon, sans le savoir, j'avais quoi? J'avais 19 ans. On m'avait dit, tiens, il y a un bus, il va à Stonehenge. Bon, je suis monté dedans, puis j'ai été les voir, quoi. Mais j'avais aucune idée à l'époque, je n'avais pas de démarche spirituelle du tout. Bon, mais ça n'a pas empêché que j'ai reçu, en allant à Stonehenge, un certain nombre de choses. Donc, oui, là où il y a des endroits vibratoires, rappelez-vous, nous sommes un complexe vibratoire, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes un paquet d'ondes. Donc, bah, quand le paquet d'ondes il va baigner dans certaines ondes qui sont assez puissantes, bah, vraiment, il se fait secouer, hein. Donc, il en reçoit effectivement quelque chose. Donc, en allant sur ces sites, nous ne faisons que réactiver en nous certaines fréquences, hein, certains nettoyages. C'est pour ça que, bon, bah, il y a des gens, ils ont été voir les pyramides. Mais pourquoi ils ont été voir les pyramides? Vous savez, voir une pyramide en pierre dans le désert, je ne vois pas le côté vraiment touristique, à moins de vouloir manger quelque chose local. Mais sincèrement, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire 10 heures de voyage à l'aller, 10 heures de voyage retour en avion, de claquer des sous pour dire je vais voir un cône, un vase carré en plein désert. C'est sincèrement. Non, ça c'est la raison donnée par le mental, mais dans la réalité, c'est un appel vibratoire. Donc tous les gens qui vont ou qui ont été aux pyramides de Gizeh, c'est a été un appel de leur cœur, afin qu'ils retrouvent certaines vibrations et réactivent certaines parties de leur ADN ou de leur mémoire. Mais c'est fait totalement inconsciemment. Voilà. Hein, donc, effectivement, tous ces hauts lieux, bah, s'ils sont hauts, enfin, en termes de fréquence et de tout ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, couleur du ciel, une Florence. J'ai remarqué il y a peu que la couleur du ciel en pleine journée était particulièrement belle, je dirais même magnifique, dans les tons verts, violacés, rosés, c'est normal. Le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand vous regardez du rose, vous regardez avec votre interprétation, c'est l'observateur qui voit ce qu'il a envie de voir. Donc si vous voyez un rose argenté, puis qu'il y en a trois autres qui voient un rose argenté, c'est que vous êtes à peu près sur la même fréquence et vous êtes sur des choses, on va dire, communes. Mais, par exemple, je prends un exemple tout bête. Il y a des gens qui sont capables de voir la couleur de l'aura. Donc quand ils regardent quelqu'un, d'après vous, qu'est-ce qu'ils voient? Vous voyez que dalle. Eux, ils voient des choses. Elle dit, ah, je vois ceci, je vois cela, tu vas dire, oh, il est complètement fou, puisque moi je vois rien. Donc, la notion des couleurs, c'est une notion de perception. Donc, c'est pas, ah oui, tiens, il y a une couleur rose dans le ciel. Non, c'est que les yeux ont décodé une couleur rose. Et on a tous les yeux différents. Donc, quelque part, il y a effectivement des changements de couleurs. Mais quand on dit changement de couleur, ça va être surtout dans la notion d'intensité, dans des notions de brillance, c'est-à-dire que nous voyons de plus en plus clairement des choses que nous ne voyions pas avant. Et si on ne les voyait pas avant, ben c'est que peut-être elles n'y étaient pas ou que nous n'étions pas capables de les capter. Bon, généralement, il y a les deux facteurs. Alors, on va toujours rester dans les couleurs. Couleurs dans les articles. J'ai l'impression que les couleurs que tu utilises dans tes textes ont un sens particulier. Cette impression est-elle la bonne? Oui. Oui. Quand je surligne en rouge, ben, le rouge, c'est que c'est violent. Oui, c'est basique, c'est beaucoup plus fort. Si je mets en orange, ben, c'est moins fort que le rouge. Mais c'est plus fort que le bleu. Donc le bleu est un accès mental, alors qu'un rouge, c'est le cœur. Donc c'est beaucoup plus fondamental. Donc effectivement, quand vous regardez et vous lisez les couleurs dans mes textes, eh bien si vous lisez que le bleu, ben, vous avez une information mentale, on va dire, une logique, quelque chose. Mais si vous lisez du rouge, c'est que là, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est ça. Donc si vous êtes vraiment extrêmement, je dirais, pris par le temps, lisez simplement d'abord ce qu'il y a en rouge. Puis après, si vous avez le temps, ben, regardez l'orange. Et puis, enfin, c'est pas l'orange, je sais plus c'est quelle couleur, mais magenta, non, c'est le cyan. Je sais plus, je confonds toujours le cyan et le magenta, mais c'est pas grave. Puis bleu, quoi. Donc c'est simplement, le bleu c'est du mental, le rouge c'est que c'est grave et c'est plutôt du cœur. Et puis bah, l'autre il est entre les deux, quoi. Puis de temps en temps, bah, je fais simplement en noir, je mets en gras. Ça veut dire que c'est important, mais moins que bleu. Donc effectivement, il y a un sens particulier. Alors les mots en France, alors avec de Françoise en France, nous utilisons parfois des mots pour tenter d'expliquer certains aspects comportementaux, psychologiques, etc. À partir de nos mots, MAUX, de nos douleurs, exemple maladie, c'est le mal qui a dit, le genou, c'est je-nous. Qu'en est-il dans d'autres pays, dans d'autres langues? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en termes de vibration. Hein, c'est-à-dire que les jeux de mots, ben, c'est clair que quand on fait des blagues en anglais, sont difficilement, des jeux de mots en anglais, c'est difficilement traduisible en français. Hein, donc chaque langue a ses jeux de mots, et si ces langues existent, c'est qu'il y a une raison. Regardez comment les langues ont été inventées au départ, il n'y en avait qu'une. Ensuite, elles ont été déformées au fil du temps. Et cette déformation, c'est simplement comme un rayon lumineux qui se propage quelque part et puis se déforme de plus en plus. Donc au départ, il y avait le même rayon lumineux et bah, aujourd'hui, ce rayon lumineux s'est dispersé dans plein de directions différentes, qui fait qu'aujourd'hui, chacune a ses jeux de mots. Un jeu de mots en japonais n'aura rien à voir avec un jeu de mots en français, voire en anglais. Donc on s'en fout. L'essentiel, c'est de savoir par rapport à votre langue maternelle. Donc les jeux de mots en français, si vous êtes français natif, quand je dis natif francophone, hein, vibratoirement ça va vous secouer les cellules. Mais si vous avez appris une langue quand vous aviez 12 ans, je sais pas moi, une autre langue, hein, je dis n'importe quoi, vous avez appris l'allemand, eh ben vous pouvez comprendre avec mental l'allemand. Mais vous n'aurez jamais les subtilités de la langue allemande, ça c'est évident, et vous vibrerez pas de la même manière. Donc la langue que vous apprenez, la première que vous apprenez, votre langue vraiment maternelle, eh bien c'est un code vibratoire. Et donc les jeux de mots sont des codes vibratoires. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont essayé de me traduire, enfin de traduire je dirais mes articles, bah, ils peuvent pas, quoi, parce que bah, globalement, on ne peut pas d'abord me traduire mot à mot, ça c'est déjà clair. Mais en plus, les expressions et la vibration qu'il y a dedans est intraduisible. Voilà. Donc ça veut dire en clair que si je cause et que si j'écris, c'est pour les francophones. Et puis le reste du monde, ben, ils se démerdent. Hein. S'ils sont anglophones, eh ben, ils trouveront des anglophones. S'ils sont germanophones, ils trouveront des germanophones. C'est tout. Hein. Est-ce que la cellule du foie doit sécréter des trucs particuliers pour les reins? Non, elle est du foie. Donc à cause avec toutes les cellules du foie, ils s'entendent bien ensemble. Puis les cellules des reins, bah, ils font la même chose de leur côté. D'accord? Donc il n'y a pas à vouloir faire que la chimie soit identique pour tous les organes du corps. Donc c'est la même chose au niveau de l'humanité. Alors, méditation, une question de Françoise. Les vibrations ressenties lors des méditations sont-elles des vues de l'esprit, des fantasmes, la reproduction d'états vibratoires vécus antérieurement? Le cœur de mon questionnement est celui du rôle de l'ego dans cet état. L'ego est-il en capacité de reproduire des sensations vécues au travers du corps? Ou est-ce l'ego qui nous fait croire que? Bon, c'est une question intéressante dans le sens que c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, notre ego, notre mental, ne peut pas nous faire vivre des choses qu'il n'a jamais vécues. Il peut pas. Donc, les premières impressions que nous avons, les premières choses, la première fois, ce sont des choses qui vous passent forcément par votre être-té, hein, par votre cœur, par votre intelligence du cœur, par vos ressentis, par... Ça, c'est indéniable, et c'est la seule connexion que vous avez avec la source, puisque c'est la vibration. Hein. Je rappelle que la 4D, le cœur, c'est la vibration. Hein, ce sont les énergies féminines. Donc, on ressent la vibration féminine. Une fois qu'on a ça, eh bien, à ce moment-là, on va dire que la géométrie masculine va prendre le truc et se dit, tiens, ce jour-là, j'ai pris une glace à la vanille, j'étais avec une demoiselle avec un décolleté si profond que la vanille m'a semblé sublime. Alors vous dites, le mental, alors ça, la première fois, vous ne pouvez pas le savoir, c'était sur place, donc vous avez fait ça, vous dites, waouh, c'était super génial. Mais vous dites, c'était tellement génial que je vais renouveler la chose. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, vous reprenez une glace à la vanille et vous ressortez avec une fille avec un décolleté profond. Or là, Vous ressentez plus rien ou pas grand-chose. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quelque chose, c'est une photocopie. Votre mental a essayé de reproduire des événements extérieurs, mais ne pouvait pas reproduire la vibration. Donc, quand nous sommes en méditation, nous avons des vibrations. Et bien sûr, là-dedans, eh bien, il peut y avoir effectivement le mental ou l'ego, hein, qui veut essayer de nous faire renouveler la chose. Et c'est souvent ce qui arrive quand, lors d'une méditation, on a eu un contact assez, je dirais, sympathique, et on se dit, bah oui, mais si je me remets à méditer, que je refais la même chose, le même truc, normalement, je devrais réavoir la même chose. Et ça, généralement, bah, ça ne revient jamais. Parce que, en fait, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes conditions. Hein, ce n'est plus quelque chose qui vous tombe dessus, c'est vous qui essayez de le reproduire. Et ça ne marche pas. Donc, globalement, vous pouvez savoir, vous pouvez voir avec un petit peu de pratique que quand c'est votre mental ego qui vous mène par le nez, en fait, hein, c'est-à-dire que par le bout du nez, il veut vous emmener à certaines expériences qu'il a déjà vécues, mais qui n'est pas à l'origine. Donc ça, vous pouvez faire la différence quand même entre les deux. Hein. Alors une question de Nora, qui a créé la source ou l'un? Eh bien, quand tu auras la réponse, tu seras l'un. C'est-à-dire que ça s'appelle le mystère, puisque l'objectif de l'un, c'est de savoir qui il est. Et toute la création, tout l'univers, tout ce qui existe, n'a qu'une seule question. Qui suis-je? Donc, je ne pourrais pas te donner la réponse, parce que cette réponse, d'abord, elle n'appartient pas aux mots, elle n'appartient pas au mental, elle ne peut appartenir qu'à la vibration elle-même. Et donc, quand tu sauras cette vibration, eh bien, tu auras changé simplement de dimension, et cette compréhension de ce qu'est l'un ou la source, hein, eh bien, tu verras que quand tu seras rendu à la 24e dimension, tu te diras, ah ouais, putain, c'est génial. Et on te dira, mais c'est qui l'a créé? Ben, tu auras à dire, c'est une question à la con, puisque comme tu es dans l'éternel présent, il n'y a pas de pensée. Donc, s'il n'y a pas de pensée, ça veut dire que ça n'a pas été créé. Donc, on boucle, et comme on boucle, eh ben, on s'en sort pas. Et donc, c'est ça le mystère. Et jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé le mystère. Et tant qu'on n'a pas trouvé le mystère, ben on expérimente. C'est en cela qu'on est aussi sur Terre, c'est pour découvrir ce qu'on ne sait pas encore de nous-mêmes. Voilà. Alors concernant les croyances, il y a Anne-Marie. Si j'ai bien compris, et pour résumer, toute notre vie n'est que croyances conscientes et inconscientes, idées que l'on se fait de notre monde qui deviennent notre réalité. Est-il possible de ne plus avoir de croyances du tout? Non. S'il y a zéro croyance, tu n'existes pas. Tu ne peux exister. Donc il y aura toujours des croyances, hein, et ça c'est la dernière vidéo que je ferai entre guillemets sur les cours, hein, c'est dans les tuyaux en fait, hein, ça devrait théoriquement je pense paraître la semaine prochaine, et qui démontre, ni plus ni moins, que sans croyance nous ne pouvons exister. Donc la seule chose qu'on puisse faire c'est changer une croyance par une autre. Donc, si vous êtes un guerrier, vous dites moi je vais aller au paradis parce que je serai mort sur le champ de bataille, c'est une croyance. Si vous avez la croyance que sur un champ de bataille vous allez mourir et vous allez en enfer, vous serez toujours sur le même champ de bataille, mais quelque part vous arrêterez toujours, on va dire, dans l'astral. Simplement, il y en a un qui se dira ça y est, moi je suis mort sur le champ de bataille, donc je suis au paradis, il verra le paradis. Par contre, l'autre qui dit c'était de la boucherie, je vais aller en enfer, ben, il sera en enfer. En clair, quoi qu'on fasse, il y a toujours derrière une croyance. C'est le socle même de toute la construction, on peut dire, de la vie consciente. Alors, une question de Michael, la Terre elle-même est-elle une croyance? Ben oui. C'est-à-dire que nous sommes la somme de croyances et nous ne vivons qu'en fonction de croyances. D'ailleurs, si on regarde l'humanité, on voit bien qu'il y a une évolution des croyances, donc une évolution de l'humanité. Eh bien, concernant la Terre, c'est la même chose, puisque la Terre, d'une certaine manière, est enfant du Soleil, eh bien, mais le Soleil, lui, est enfant de la galaxie, etc., etc. Donc, en fait, ce ne sont que des croyances qui sont plus ou moins puissantes, en fonction, bien sûr, qui est donc plus elle est puissante, plus la taille est imposante. Donc la croyance, on va dire, vécue par le Soleil, hein, par le couple Hélios et Vesta, est des milliards de fois plus balèze que la nôtre au niveau individuel, c'est clair. Mais ces croyances. Alors les rêves, j'ai une question concernant les rêves, une question de Sabine. Je les trouve actuellement de plus en plus réalistes et incroyablement synchrones. Une chose me gêne cependant, j'ai fait deux rêves rapprochés dans lesquels j'ai retrouvé deux personnes proches, mais ces dernières ne me paraissaient pas vivantes. Je m'explique, même si elles bougent, leur regard n'a pas d'expression. Il n'y a pas de dialogue, ou alors je ne les entends pas et elles semblent évoluer dans leur monde différent. J'ai déjà connu ça avec des êtres décédés, mais le voir sur des vivants me perturbe un peu. Alors si c'est un rêve, qu'est-ce qui te dit que c'est des vivants? Quelle différence y a-t-il entre un fantôme et quelqu'un que tu vois dans ton rêve? Est-ce que parmi vous, vous avez réussi à regarder des gens dans les yeux, dans vos rêves, et de ressentir qu'ils étaient vivants? Moi, je vois des tas de gens dans mes rêves. Je ressens des tas de choses, mais je ne me suis jamais posé la question s'ils étaient vivants. Enfin, ça m'est pas venu, je ne m'en souviens pas. Hein, ou d'émettre un doute en disant, ouais, mais c'est celui-là, attends, je vois la forme, mais je ressens pas son regard. Donc là, c'est un petit truc je dirais, à travailler, à regarder où ça en est. Mais pour moi, voir quelqu'un dans un rêve et parler d'un fantôme, je vois pas la différence. Mais alors, franchement, pas. Florence, comment interpréter les rêves, leur signification? Et bien là, c'est pareil. L'interprétation des rêves se fait en fonction d'un observateur, mais aussi de votre capacité à savoir quelles sont les images qui sont utilisées. C'est-à-dire que quand le monde invisible, on va dire, dans votre inconscient, essaye de faire venir à votre conscience quelque chose, il ne peut utiliser que le vocabulaire, c'est-à-dire les images qu'il y a dans votre zone consciente. Pas consciente, je veux dire, subconsciente, hein, puisque bon, il y a l'inconscient conscient, on va dire, mais globalement, c'est ça. Donc, quand je vois les gens qui regardent un dictionnaire des rêves, je souris. Alors, bien sûr, il y en a des grands, à peu près, des grands principes qui restent, parce que ça relève des égrégores, hein, ni plus ni moins, on est d'accord. Mais dans le détail, ça vaut pas un clou. Donc, l'interprétation des rêves est une capacité à pouvoir extrapoler la trame de ce qui a été dit. Et pour ça, il faut se détacher complètement de l'image de l'objet. Donc ça, c'est quelque chose que je m'étais amusé à faire du temps de BVI, Booster Votre Influence, où il y avait un forum, et où je décodais les rêves des gens. Donc ils mettaient leurs rêves et je leur disais ce que ça voulait dire. Parce que bah, moi, c'était d'une évidence. Je disais, mais bon, bah, ça veut dire ça, c'est tout, quoi. C'est quoi le problème? J'avais pas besoin d'aller voir dans des dicos d'interprétation X, Y, Z. Donc généralement, quand j'ai des rêves, enfin, je le faisais d'une manière assez régulière avant, maintenant je m'en fous. Avant que je perde, je dirais, mémoire du rêve, j'essayais d'en trouver tout de suite l'interprétation. Avec un petit peu d'exercice, ça devient basique. Ça devient vraiment basique à faire. Hein. Vous trouvez tout assez rapidement. Puis si vous ne trouvez pas, on s'en fout. Ça veut dire que l'autre n'a pas été foutu de vous faire, quand je dis l'autre, hein, les autres parties de vous-même dans les autres dimensions, qu'ils n'ont pas été foutus de bah, vous parler clairement, quoi. Hein, vous ne parlez pas, je dirais, équation et parabole à un gamin de 6 ans qui ne sait même pas ce que c'est la mathématique. Donc, si le gamin ne comprend rien de ce que vous lui dites, vous êtes un mauvais pédagogue. Donc moi, de mon côté, quand il y a des rêves qui me viennent et que je n'arrive pas à interpréter, je me dis, bon, bah, écoutez les copains, renvoyez le message, mais d'une manière différente, parce que là, moi, je ne capte rien. Puis c'est tout. Hein. Je ne fais pas de... Je veux dire, je ne vais pas me faire de soucis pour ça. Ça ne sert à rien. Alors, symptômes physiques de Laetitia. Ma question concerne le souffle au cœur, anomalie physique sans gravité. Médicalement, on sait ce que c'est. Quant au niveau spirituel, y a-t-il une explication? Alors, Physiquement, je dirais, c'est comme si je regardais toujours une voiture. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, la voiture, elle a comme un hoquet, parce que quand il y a le chauffeur qui conduit, de temps en temps, ça freine, il y a les pneus qui couinent, ça redémarre, ça freine, ça couine, enfin, ça n'arrête pas. On va dire, bon, y a un problème, voilà, c'est simple. On connaît le problème, ok, très bien. Et si vous montez dans la voiture, vous découvrez que la personne n'a pas, simplement, ne sait pas desserrer le frein à main, quoi. Donc, la voiture, quand elle embraye, ça fout un à-coup, puis après, oh, ça cale, enfin bref. Donc, est-ce que c'est un problème spirituel? Oui, c'est que la personne est ignorante et qu'elle a tout simplement pas desserré le frein à main. Donc, d'une certaine manière, alors bien sûr, on va dire oui, mais il y a le code génétique et ceci, oui, d'accord, très bien. Hein? Mais généralement, il y a toujours une relation entre un problème physique et un problème vibratoire. Votre physique n'est qu'une concrétisation du vibratoire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a effectivement une vibration quelque part qui ne joue pas. Cette vibration peut être amenée par effectivement des blocages qu'ont eu par exemple certains de vos ancêtres et donc c'est coincé dans votre ADN. Donc ça ne veut pas dire que c'est débloquable. Puis même de toute façon, si mentalement vous le saviez, moi je dirais à ce niveau-là, le mieux c'est de ne pas se prendre la tête. Moi je sais que dans la famille, génétiquement, il y en a qui ont plein de soucis. On est d'accord, moi les soucis, j'en ai rien à battre. J'ai vécu ma vie, j'ai fait simplement beaucoup plus attention sur ma manière de me nourrir, de me bouger, de faire les choses. Et je dirais, la réalisation de ces anomalies génétiques a été, je dirais, amoindrie d'une manière importante. Enfin, quand je dis importante, tellement importante qu'en fait, je ne sais même pas que je les ai, quoi. Mais je m'en fous. Et parce que je n'y accorde pas d'importance, parce que je n'y pense pas, eh bien, de ce côté-là, eh bien, ça n'amplifie pas le phénomène. Donc, je n'alimente pas le problème. Hein, j'ai ma sœur aînée qui est infirmière, et chaque fois que je l'ai au téléphone, c'est pas difficile. Je connais tous les problèmes génétiques de la famille. Et donc, elle se l'échoppe et elle n'arrête pas d'avoir que des emmerdes, que des emmerdes, que des emmerdes, que des emmerdes, que des emmerdes. Et donc, je vois ces mêmes symptômes chez les autres frangines, hein, qui se révèlent au fil du temps. Moi, pour l'instant, rien à l'horizon. Hein. Parce qu'en fait, je m'en fous complètement. Hein. Donc, votre corps se renouvelle et c'est vous qui, d'une certaine manière, amplifiez d'une manière positive ou négative les choses. Mais quand c'est un problème, on ne peut pas l'amplifier d'un côté positif parce que le simple fait de le penser en termes de problème fait qu'il augmentera en négativité. Donc, vous n'y pensez pas, vous suivez le chemin. Donc, d'après la médecine officielle, je serais mort déjà depuis longtemps. Vous voyez, je suis toujours vivant, il n'y a pas de problème. Donc, n'extrapolons pas, je dirais, par rapport à tout ça. Théoriquement, je me rappelle, j'avais 6 ans, un truc comme ça. J'étais incapable de voir le tableau à 1 mètre, quoi. Et le truc, c'est que le toubib, enfin le toubib, l'ophtalmo, il avait dit à ma mère, votre fils, il n'aura jamais, de toute façon, le permis de conduire. Et en même mieux, on se demande s'il sera pas aveugle avant la puberté. Parce que voilà, j'y voyais vraiment que dalle. Hein. Et vous voyez. Donc, là. Il y a forcément une relation entre une vibration, simplement, cette vibration, elle n'est pas forcément de votre fait de cette vie. Bon, ça s'appelle un héritage familial, génétique, et ça fait, c'est comme, je dirais, une branche. Si la branche, dès départ, elle a déjà un souci, les branches qui vont suivre derrière, ça ne veut pas dire qu'elles auront plus de soucis, quoi. Hein? Donc, c'est tout, quoi. De toute façon, génétiquement, on est tous des tarés, hein, on est tous porteurs de tares incroyables. Ça se révélera plus ou moins selon l'énergie qu'on va leur consacrer. Si vous ignorez tout ça, vous passerez à côté de la grosse majorité. Voilà. Il restait donc, c'est plus des questions là, parce qu'il y en a ceux qui sont vraiment très très longues là. Je ne vais pas en parler parce que là c'est vraiment beaucoup trop long pour une réponse très courte. Je vais juste parler un petit peu concernant Lucifer et Satan, parce qu'il y a Dominus qui pose une question là-dessus. Lucifer, je ne l'ai jamais ressenti comme un méchant qui vient de l'ombre et qui nous veut du mal. Je ne vois donc pas pourquoi il sera l'image du mal. On dit qu'il était le plus bel ange. Son nom est porteur de lumière en latin. Je crois au contraire qu'il a fallu beaucoup d'amour pour accepter la chute et se retrouver dans le panier de crabe de la 3D falsifiée avec ses potes, devenus nos soi-disant démons tentateurs. Finalement, je me demande si cette histoire de Lucifer nous a servi, quand nous a servi est bien réel. D'ailleurs, beaucoup confondent Satan, qui, je crois, est l'égrégore créé par toutes les pensées négatives des préhumains avec Lucifer. Qu'en penses-tu, toi? Bah, écoutez, c'est simple. Moi, Lucifer, il n'est pas dans ma sphère, et Satan non plus. Donc, m'en fous. C'est aussi simple que ça. Le seul truc, c'est que qu'il a fallu beaucoup d'amour pour accepter la chute. On n'a pas chuté. On n'a pas chuté, on est simplement descendu en vibration. Hein. C'est-à-dire que nous avons, d'une certaine manière, expérimenté des profondeurs qui n'étaient peut-être pas au départ prévues. Puis voilà, quoi. Tout ça, pour moi, c'est du baratin religieux. Donc, je m'en fous. L'essentiel, c'est est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu te sens bien? Et puis, si tu as des questions, on te répondra. Mais pour ça, il faut savoir écouter quand même. Hein? Puis voilà, quoi. Bien. Donc, de ce côté-là, maintenant, bah, ça fait déjà 2 petites heures que je parle. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, les questions qui ont été posées dans la fenêtre de discussion que moi je peux pas lire à droite parce que c'est écrit beaucoup trop petit pour moi, j'y répondrai donc la prochaine fois, à la prochaine webconf. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis pour ceux qui écouteront plus tard, attendez, il y a quelqu'un qui pose pourquoi tu as une couronne toi Laurent, je sais pas, je comprends pas. Une couronne de quoi? Enfin bref. Bien, écoutez, j'arrête l'enregistrement à ce niveau-là.